suis en parlant avec Rico. C'est tout à fait.
Bonsoir.
Donc, ce que je vous propose, ça va être de poser un certain nombre de questions moi-même, en vous laissant la possibilité, si vous avez envie, par la suite, de lui poser vos questions, si on n'a pas déjà répondu. Alors déjà, on va faire un petit jeu. Est-ce qu'on peut dresser une carte d'identité de Gulfstream, peut-être en commençant par son âge?
Alors, en fait, c'est une maison qui est assez ancienne, puisqu'elle a une trentaine d'années. Elle a été créée en 82 par un éditeur illustrateur qui s'appelle Jean-Olivier Héron et qui avait fondé Gallimard Jeunesse et Pierre Marchand. Et il a eu envie en fait, de créer sa propre maison d'édition, donc en quittant Paris, en s'installant à Nantes. Et donc, il a publié beaucoup d'images, de cartes postales dédiées plutôt à la biodiversité, au patrimoine maritime. Ça, c'était vraiment son credo et ça a duré à peu près une vingtaine d'années. Et au début des années 2000, il y a eu une première collection d'ouvrages qui a été créée en lien avec justement tout ce catalogue d'images et de cartes postales et d'affiches qui dressaient un inventaire de façon planche pédagogique. Donc, ça a été une première collection qui s'appelle Sauvegarde, donc collection de documentaires pour les 8-10 ans. Et petit à petit, le catalogue s'est étoffé de collections d'albums et de romans. Et en fait, le catalogue tel qu'il existe aujourd'hui, il y a véritablement une dizaine d'années.
D'accord. Alors, bon, vous avez parlé de Nantes, la maison est toujours à Nantes, son adresse, c'est ça?
Oui, la maison est toujours installée à Nantes et on peut rester.
Ça lui donne une identité particulière?
Alors, on ne joue pas forcément la carte du régionalisme. C'est vrai qu'il y a eu des publications qui ont été en lien avec justement le patrimoine maritime lié un petit peu à la ville de Nantes, mais c'est plutôt une ligne assez nationale, on va dire.
D'accord. Justement, cette ligne éditoriale, du coup, qu'est-ce que vous faites là depuis une dizaine d'années? Qu'est-ce que vous voulez construire?
Alors, c'est une ligne éditoriale qui a vocation à présenter et à proposer des ouvrages à la fois ludiques et pédagogiques. Pour un lectorat assez large, donc on élargit finalement d'année en année, puisque on propose des ouvrages aussi bien aux petits, donc à partir de 2-3 ans, jusqu'aux jeunes adultes. Et donc c'est une maison d'édition qui est généraliste, puisqu'il y a à la fois des romans, des albums, de la bande dessinée, et puis des documentaires.
D'accord. Alors en termes de taille, ça fait un catalogue important de titres?
Alors c'est un catalogue qui compte 220 titres vivants. Il y en a eu plus qui ont été publiés, mais comme vous savez, régulièrement dans la vie d'un livre, parfois, il y a des ouvrages qui sortent du catalogue. Aujourd'hui, il y a 220 titres et notre rythme annuel de publication, c'est une trentaine de nouveautés.
D'accord. Et alors vous, concrètement, vous êtes éditrice. Comment est-ce que vous êtes arrivée et quand? Est-ce que votre parcours par rapport à Gulfstream?
Alors, c'est un parcours qui n'a pas été forcément linéaire. En fait, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai eu une maîtrise d'histoire ancienne en 2001. J'ai enseigné au collège l'histoire-géographie pendant 3 ans. Et puis, j'ai repris mes études d'un master 2 d'édition à Angers. Et à la fin de ce master 2, il fallait que je fasse un stage professionnel. Et donc, je me suis tournée vers Gulfstream, qui avait l'avantage d'être à Nantes, donc à 1 heure d'Angers. Et donc, j'ai passé 6 mois en fait en stage chez Gulfstream. Et puis, bah, finalement, j'y suis restée, j'y étais bien.
C'est quand même une belle success story de stagiaire.
Ça vous arrive, les stagiaires, ça arrive en fait. Voilà.
D'accord. Et autour de vous, il y a beaucoup de monde dans la maison hein?
Alors, c'est une équipe de taille moyenne, puisqu'il y a 8 personnes. En production, nous sommes deux, donc mon assistant d'édition et moi-même. Il y a 2 personnes qui sont dédiées à tout ce qui est communication, marketing. Il y a aussi 2 personnes pour l'aspect plus commercial. Alors, ils se partagent la commercialisation des livres, mais aussi de la carterie, qui est une activité qui perdure toujours. Il y a un comptable, bien sûr, et puis la directrice générale.
D'accord, ça fait pas mal de boulot quand même.
Oui, finalement, on va dire, si on restreint juste aux 2 personnes en production, une trentaine de nouveautés, c'est assez dense. Surtout qu'en fait, on internalise absolument tout. Les seules choses, les seules activités que nous externalisons sont la correction que l'on confie à 2 correcteurs extérieurs qui travaillent avec nous depuis plusieurs années.
D'accord. Donc là, dans les nouveautés, il y a cette nouvelle collection électrogène. Alors, nouvelle, ça y est, commence à s'installer quand même un petit peu avec une belle collection de titres. On a Charlotte Bousquet, par exemple, et Joanne Elliott, Agnès Marot qui sont là cette année. Vous pouvez nous en parler un peu plus d'électrogène?
Alors, cette collection électrogène a pile 2 ans, puisqu'elle a été lancée au mois de mai 2015. Et c'est une collection qui compte aujourd'hui 9 titres et qui est alimentée d'éducation pour grands ados, jeunes adultes, et qui se voulait et qui se veut toujours un champ de liberté et d'exploration pour les auteurs. C'est une collection d'ouvrages en one shot avec un calibrage relativement important, on est sur du 400 000, 500 000 signes en général, qui explore les différents genres, les différents champs en fait, de l'imaginaire et qui s'oriente aussi ponctuellement vers le contemporain et le réaliste. Et donc ce sont des ouvrages dans lesquels les auteurs ont absolument toute latitude, et c'était aussi assez récréatif pour nous du point de vue éditorial de ne pas s'enfermer entre guillemets dans une nouvelle série. C'est-à-dire que là on a vraiment des ouvrages qui sont très très différents les uns des autres, mais l'identité de la collection a été pensée de façon à ce qu'elle soit vraiment remarquée immédiatement, et d'ailleurs je pense que l'effet collection a fonctionné assez rapidement sur l'électrogène.
Oui, je m'entrais un petit peu, hein, il y a ce choix particulier donc, de la couverture avec cette tranche en couleur. Voilà, c'était assez innovant. Et puis, vous avez eu des paupières. On en voit plus en plus. D'accord. Et alors, moi, vous parlez des séries. Il y a d'autres séries. Hein. On a ici Kind of the Fred aux Imaginales qui a publié avec vous L'héritier des draconistes, donc un tome 1. Je sais qu'il y a d'autres séries. Comment ça fonctionne? Quelles séries est-ce que vous suivez? Quels auteurs? Parce que,
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons à cœur en fait, de défendre la production française et francophone. Ça, c'est vraiment dans notre lignée éditoriale, c'est notre deuxième point fort. Donc, pour l'instant, pas d'achat de droits et ce n'est pas prévu dans les deux trois ans à venir. Donc, ça, c'est vraiment important. Nous défendons vraiment la qualité en fait, de la production française et francophone. En fait, on a élargi le catalogue et la fiction depuis l'année 2012, parce qu'on était essentiellement centré sur le documentaire. Et en 2012, on a franchi un cap. Moi, j'avais envie en fait, de développer la fiction et d'aller vers la littérature de l'imaginaire que nous n'avions pas du tout exploré jusqu'à présent. Et on a commencé par quelques séries pour les 13-15 ans, notamment Nina Volkovitch, qui a eu le prix Imaginal en 2013, il me semble. Donc, on restait sur un lectorat ado. Puis, on a encore élargi, tout en restant dans les littératures imaginaires, un lectorat jeunes adultes avec la série Les autres passeurs de Cindy Van Linder, qui avait eu le prix d'ailleurs en 2014 des Imaginales pour mon jeunesse, je crois. Donc, c'est pour vous montrer à quel point on a aussi envie, au-delà de défendre la production française, de défendre aussi bien les auteurs qui ont déjà une certaine bibliographie que les primo-romanciers. Donc, on laisse la chance aux nouveaux auteurs. Et je trouve que c'est important, en fait, d'ouvrir les bras, en fait, des auteurs qui essaient de frapper à différentes portes. C'est un marché qui est assez difficile, qui est assez concurrentiel. Il y a quand même des pépites que nous avons grand plaisir à découvrir. Et donc, chaque année, nous publions à la fois des auteurs qui ont déjà une notoriété. Et puis, voilà, on a une prise de risque qui est calculée, parce qu'on y croit aussi qu'on a des coups de cœur. Et voilà, on publie aussi de jeunes auteurs. Et donc, pour la fidélisation, ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur, puisqu'on essaie vraiment de mener une politique d'auteur, donc maison, entre guillemets. Évidemment, on accueille de nouvelles personnes, mais on aime bien suivre l'évolution, en fait, littéraire, et puis les envies, les goûts, les choix des auteurs que l'on connaît déjà depuis quelques années et qui ont envie de s'aventurer vers d'autres domaines.
Et on a l'exemple ici avec Charlotte Bousquet. Alors, Charlotte Bousquet, elle a depuis longtemps, elle était même dans Courant Noir au début, et puis il y a eu les romans graphiques, et puis là, il y a ces deux ouvrages très beaux, Sans Lune, qui vient de sortir dans la collection électrogène. Comment ça se passe? Parce que c'est étonnant, elle fait différentes choses. Vous la suivez, elle propose. Comment ça marche, ce fonctionnement depuis des années?
La base, c'est vraiment l'échange. Je discute beaucoup avec les auteurs, même lorsqu'ils n'ont pas forcément de projet vraiment défini, mais voilà, je leur parle un peu des envies que moi j'avais dans l'orientation éditoriale à venir, parce que moi, il faut savoir que moi, je suis toujours dans une projection à 2 ans en fait, des publications. Donc là, pour vous donner un exemple, je suis en train de boucler le programme pour la fin de l'année 2019. Et donc, en effet, Charlotte, par exemple, là, depuis un moment, elle a commencé par du roman policier historique pour adolescents, et puis il y avait eu ce fameux texte qu'elle m'avait envoyé, un texte de 10-15 000 signes, qui était un format de nouvelle qui s'appelait déjà Rouge Tagada, que je trouvais très intéressant. fois les idées en fait, d'auteurs sur un projet concret peuvent aussi donner naissance à des collections. Et là, par exemple, ce projet de roman graphique compte 4 titres pour le cycle collège, il y a un 5e titre pour le cycle lycée là, qui est sorti en début d'année. Et donc voilà, on développe des idées en fonction des envies à la fois des auteurs et de la maison d'édition.
Alors, j'en profite pour demander justement, ça me fait penser à ce dictionnaire, le texte que vous évoquiez, sur lequel vous avez fait avec Stéphanie Rubini, le dictionnaire pour les filles.
Précieuse Marie-Lique.
Voilà, précieuse. Merci. Ça m'a semblé une initiative vraiment intéressante à ce moment-là, parce que voilà, on sait qu'un éditeur qu'on ne citera pas publie chaque année un abominable dictionnaire pour les filles bourré de préjugés sexistes. Est-ce qu'il y avait une volonté, un engagement aussi en publiant ça et puis après, on continue avec les romans graphiques qui posent des questions vraiment actuelles, de manière simple, claire. Ça fait du bien aussi, ces textes-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme volonté c'est juste l'occasion ou c'est quelque chose que vous voulez imprimer dans l'identité de GoStream?
Alors, vraiment, la dimension d'engagement et presque militantisme, on va dire, inscrit dans l'ADN de la maison d'édition. L'ouvrage dont vous parliez, justement, Précieuse par ridicule, s'inscrivait dans une collection qui s'appelle Époque, qui était une collection de documentaires pour adolescents qui présentait des thèmes d'actualité sous une forme assez originale, forme d'abécédaire, avec un ton assez décalé, parfois un peu grassant, et avec de l'illustration. Il y avait des thématiques qui étaient même assez osées, on va dire, pour ce lectorat. Et j'en étais tout à fait la personne adéquate pour parler de cette thématique. Et c'est vraiment un travail qu'on a souhaité prolonger justement avec cette collection de romans graphiques dont on parlait tout à l'heure, qui parle à la fois de l'homosexualité, mais aussi du suicide, c'est le petit dernier, du harcèlement scolaire. Et là, ce sont vraiment des thèmes en fait qui touchent les adolescents. Cette collection de romans graphiques, je sais qu'elle est énormément mise en valeur dans les centres de documentation, dans les bibliothèques. Et à chaque fois que je rencontre des documentalistes ou des bibliothécaires, ils me disent que ce livre, il sort absolument tout le temps. C'est un peu le côté un peu pas secret, mais c'est une lecture vraiment pour soi que les ados viennent chercher et qui ne leur a pas forcément été conseillé, mais qui déniche dans les rayonnages. Ça, je dirais que ça leur fait plaisir parce que ce ne sont pas des thématiques qui font plaisir, mais ça leur fait du bien en fait de lire ce genre de choses.
D'accord. Je pense que j'avais parlé de la police, alors on est dans l'imaginaire, vous en avez parlé. Il y a aussi une autre identité de GoStream, il me semble que c'est vraiment l'aspect historique qui est important avec Nina Volkovic. On avait ça avec Courant Noir avant, avec le policier historique. Est-ce que cette première impression, est-ce qu'elle perdure? Est-ce que ça reste quelque chose que vous voulez faire, peut-être avec Catherine Breca ou...
Alors c'est vrai que c'est intrinsèquement lié à mon parcours aussi, parce que je suis toujours historienne, on va dire, dans l'âme, et vraiment toutes les époques historiques me passionnent. En fait, Courant Noir avait été lancé en 2008, et c'était un directeur de collection, Thierry Lefebvre, qui l'avait proposé à Gulfstream, et c'est une collection qui a eu 25 titres. Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivée en 2007, j'ai hérité en fait du catalogue de la maison d'édition, qui est un catalogue documentaire très orienté nature et biodiversité, hein, comme je vous le disais, et j'avais envie en fait de développer l'aspect un peu plus culturel, donc on va dire le pendant, ou la symétrie un petit documentaire naturaliste, et c'est vraiment ce que je me suis attachée à faire depuis le début, donc dans un premier temps dans la veine documentaire, puis justement dans la veine de fiction. Et c'est vrai que quand on parlait de Nina Volkovic, de Carole Prépin, c'était un vrai coup de cœur lorsqu'elle m'a la proposé. C'était issu aussi d'une réflexion commune parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur quelques ouvrages précédents. Et lorsqu'elle m'avait parlé notamment de cette ambiance dans l'URSS de Staline et puis cette dimension aussi fantastique avec cet aspect merveilleux de la Russie orthodoxe, des icônes, etc. Je trouvais que c'était très original et puis en plus c'était une époque qui n'était pas du tout exploitée en fait pour un lectorat adolescent. Donc je trouvais ça très intéressant d'avoir ce fond de vérité, ce fond historique parce que c'était extrêmement documenté et puis d'avoir cet élargissement au fantastique. Et donc c'est quelque chose qu'on a régulièrement trouvé en effet dans les séries de Catherine Cuenca, donc je pense au Mystère à la tête d'or, au Passage des Lumières qui se passe pendant la Révolution française, la Maléfique sur la pierre de lune qui se passe pendant la Renaissance italienne, la Prophétie des runes qui se passe à l'époque mérovingienne. Donc il y a vraiment un cadre historique assez fréquent en fait dans qui est reçue par le biais en fait, du collectif Cocyclique que vous connaissez certainement. Et donc, ce texte m'avait été envoyé en 2012. Bon, je ne suis pas très réactive sur les retours de lecture, mais longtemps après, je lui ai annoncé que vraiment c'était un coup de cœur, que ça m'avait beaucoup plu parce qu'il y avait cette dimension historique et médiévale dans ce premier tome, ce tome d'exposition. Et en plus, cette dimension vraiment fantasy, et puis les retours dans le temps avec une structure narrative très intéressante et puis une écriture très dense. Très riche, très littéraire, et donc elle a fait preuve de beaucoup de patience puisque voilà, elle a accepté d'attendre le début de l'année 2014 pour la sortie du tome 1, et donc on a publié en gros sa série sur une année et demie, parce qu'à l'origine ça devait être une trilogie qui en soi pouvait être en effet bouclée à la fin du troisième tome, mais c'est vrai qu'on avait laissé, enfin elle avait laissé en suspens quelques questions et quelques mois plus tard d'écrire un tome 4. Alors c'est vrai qu'on avait discuté parce qu'on ne savait pas trop à la base si on s'orienterait vers un spin-off ou un tome 4, et finalement c'est un petit peu un mélange des deux, puisque dans le tome 4 il y a vraiment une réponse qui est apportée à toutes les questions qui étaient restées en suspens à la fin du tome 3, et puis il y a un prolongement et un développement d'une autre thématique et d'une autre histoire, mais il y a vraiment une conclusion cette fois-ci à la fin du tome 4. C'est vrai que ça dépend des ouvrages. Généralement, on arrive à tous tomber d'accord sur une deuxième voie, une troisième version du texte. Donc, il y a d'abord une première lecture de découverte de notre côté, et puis une lecture vraiment éditoriale qui approfondit en fait notre réflexion, notre analyse du texte. Et voilà, on fait part de nos remarques à l'auteur, qui accepte ou non d'ailleurs les corrections qu'on lui suggère. Et puis, donc, on arrive à une deuxième ou une troisième version du texte. Donc, généralement, ça peut prendre, on va dire, 2 à 3 mois dans le temps éditorial. Et puis, une fois qu'on a la dernière version du texte, eh bien, nous la mettons en maquette et nous la transmettons à 2 correcteurs. Donc, nous procédons toujours à 2 lectures hein, de correction. Ça nous semble essentiel hein, vraiment de traquer la moindre coquille. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on a trop lu un texte, forcément, on devient aveugle. Le cerveau interprète, il ne voit plus tout ce qui est réellement écrit. Donc, on confie à 2 personnes qui vont avoir un regard très neuf. Et à chaque fois, ce sont 2 personnes différentes qui font la première et la deuxième. Voilà, pour avoir une contre-lecture. Et c'est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même approche du texte. Alors, forcément, ça suscite aussi des débats sur certaines questions, parfois très, très pointues, d'autres d'ordre plus général. Il y a eu parfois une restructuration complète d'un récit. Mais encore une fois, c'était une proposition en fait, à un auteur qui avait accepté en fait, le challenge, et le résultat d'ailleurs est excellent. Et puis d'autres fois, le texte arrive dans sa forme quasiment définitive.
D'accord. Alors, ce que je me demande, c'est du coup, vous parlez d'être attentif à ce qui bouge. Comment est-ce que vous êtes attentif aux tendances actuelles, à ce qui se fait parce que, sentir l'air du temps, comment ça marche?
Alors non, je n'ai pas le temps, mais oui, en fait, je le trouve quand même, comme tout le monde, je pense. En fait, sur la trentaine de nouveautés par an, nous publions une 15aine d'ouvrages en fiction, et le reste est donc en documentaire, BD et album. Alors moi, je me nourris énormément de visites en salon, de discussions avec des auteurs que je connais, ou des découvertes d'auteurs, et puis je lis aussi énormément tout ce qui peut être fait, les textes m'arrivent directement et c'est moi qui opère la première sélection. Alors, c'est vrai que cela a un point de fonctionnement inverse de ce qui se pratique. Généralement, c'est plutôt d'abord un comité de lecture qui fait une première sélection et qui ensuite transmet ses recommandations à l'éditeur. Moi, je suis plutôt vraiment, enfin, j'ai vraiment envie d'être en amont de la sélection parce que je sais exactement ce que la façon dont je souhaite alimenter la ligne éditoriale. Je dois recevoir à peu près 3000 manuscrits par an. Je pense d'ailleurs maintenant à 90% par mail. Je ne reçois quasiment plus par courrier. C'est vrai qu'avec la facilité d'Internet, on reçoit beaucoup de pièces jointes. Oui, c'est une première sélection qui est assez rapide et assez évidente puisque quasiment les deux tiers sont des manuscrits qui ne correspondent pas du tout à la maison d'édition. Il y a parfois des gens qui m'envoient des manuscrits vraiment adultes ou des essais en sciences humaines ou des choses qui sont en fait un truc rigolo. Ah ben là, très récemment, j'ai reçu une proposition de bande dessinée saphique pour adultes initiés. Alors je me dis, bon, ben non, c'est très intéressant, mais ça ne correspond pas du tout, même dans les 10 ans à venir, à ce que l'on compte faire. Mais donc, il y a vraiment les deux tiers, on va dire, il y a 2000 manuscrits qui ne correspondent pas du tout. Et après, il y a ce travail très précis de deuxième sélection, avec une lecture des premières pages, des premiers chapitres. Alors, évidemment, je demande toujours aux auteurs d'être très patients. Malheureusement, je ne prends même pas le temps, et ça, c'est pas bien du tout, d'envoyer un accusé de réception aux auteurs qui envoient leurs manuscrits. Donc, souvent, ils me font des piqûres de rappel, donc du coup, j'ai été informé de l'évolution de la lecture ou non de leur texte. Et puis, rapidement, finalement, on arrive à une sélection d'une une trentaine de titres à peu près qui pourraient potentiellement être publiés. Et donc là, du coup, c'est vraiment une lecture intégrale de ces textes. Je les transmets aussi à mon assistante. Et puis, je les transmets à deux lectrices dont je n'ai pas parlé, qui travaillent en freelance pour nous, mais pour d'autres maisons d'édition également. Qui constitue en fait mon comité de lecture adulte. Alors, je dois leur transmettre à peu près une dizaine de textes par an. On va dire que les deux tiers de ces textes sont quasiment en voie de publication, mais c'est vrai que moi, ça me fait du bien aussi d'avoir un retour complètement extérieur à la maison d'édition. Parce que bon, c'est vrai que Caroline et moi, on est toujours la tête dans le guidon, donc parfois on a besoin aussi d'avoir un recul comme ça qui est très bénéfique. Et puis, il y a un autre comité de lecture qui existe aussi, qui est composé d'adolescents. Alors, ce comité de lecture, en fait, a été créé en 2009, lorsque j'ai commencé à accueillir des stagiaires d'observation en troisième seconde. Et le premier que j'ai reçu, c'était un garçon, alors c'est pas du tout représentatif des stagiaires que j'ai reçus parce que ce ne sont quasiment que des filles. Mais le premier que j'avais reçu, donc c'était un jeune garçon, Maël, qui était venu pendant une semaine en stage. Alors je me demandais ce que je pouvais lui faire faire parce que moi, je me disais qu'il va pas nous observer lire, ça serait pas très intéressant. Donc du coup, je lui ai fait lire des textes sur lesquels nous étions en train de travailler. L'expérience lui avait beaucoup plu. Et donc à la fin de son stage, je lui ai proposé de continuer l'expérience. Et ça l'a intéressé. Donc lorsqu'il était disponible, je lui proposais des textes. Et à chaque fois qu'il me rendait une fiche de lecture, on échangeait sur ce texte-là. Et le deal, c'était à la fin de trois fiches de lecture restituées, un ouvrage du catalogue de Gulfstream remis en cadeau. Et donc, on a reçu de plus en plus de stagiaires. Donc, au début, ce comité de lecture était vraiment nantonantais. Et puis, voyons, ça fonctionnait plutôt bien. J'ai mis l'adresse à disposition en fait, sur le site internet de Gulfstream. Et donc, il y a beaucoup d'ados. Il y a un effet bouche à oreille qui a vraiment fonctionné. Et il y a des ados donc, qui viennent de tous les coins de France en fait, qui se sont inscrits. Et donc, ils sont 250 aujourd'hui. Alors, évidemment, les 250 ne lisent pas les manuscrits. J'en sélectionne une dizaine ou une douzaine à peu près parce que je connais leur goût de lecture parce que je les suis depuis un moment et donc je leur propose les textes qui vont être publiés. Alors je ne leur dis jamais qu'ils vont être publiés, mais maintenant ils s'en doutent. Mais du coup, ils ont un regard vraiment extrêmement pertinent et on le voit dans leur fiche de lecture. Ils ont vraiment un œil avec une acuité très très intéressante. Et donc, du coup, ce n'est pas ce comité de lecture n'est pas une aide à la prise de la décision, mais c'est plutôt un comité qui va me conforter, on va dire, dans mes choix et qui conforte cette confiance que je peux avoir justement dans les choix que je vais faire pour des adolescents, parce que plus les années passent, en fait, plus l'écart évidemment va se creuser entre moi et le lectorat auquel j'ai proposé des romans. Donc c'est intéressant d'avoir vraiment ce point de vue d'adolescent. Et puis il y en a que je suis depuis un certain nombre d'années, et d'ailleurs les tout premiers qui sont arrivés en stage, il y en a un certain nombre qui ont poursuivi, qui sont maintenant en études supérieures et qui sont en métier d'édition. Donc je trouve que c'est assez chouette d'avoir pu les conforter dans leur envie de découvrir ce milieu éditorial.
C'est la pépine à stream. Pour la communication avec les réseaux sociaux, la communication avec les blogueurs, comment ça marche cette com un peu plus moderne que quand on envoyait les SP aux journaux.
Alors on a deux personnes attitrées dans la maison d'édition qui travaillent justement beaucoup avec les blogueurs, les booktubeurs, et donc qui envoient des services de presse. On est assez généreux en envoi de services de presse hein, de manière générale. Il y a régulièrement aussi des créations de concours pour des sorties d'ouvrages. Mais pour la partie comité de lecture ado, en fait, on ne va pas s'en servir sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va plutôt rester en interne et qui va être diffusé plutôt, divulgué auprès de la diffusion. C'est vrai que lorsque l'on extrait quelques passages en fait, des fiches de lecture de ces ados, on aime bien les transmettre à nos équipes commerciales parce que ça leur donne vraiment en fait, la température du lectorat immédiat. Donc voilà, c'est les deux axes principaux de communication. Et pour les nouveautés, c'est vrai qu'on a l'habitude de préparer des ouvrages très en amont. Jusqu'à il y a, on va dire, 6 mois, en fait, nous procédions au tirage complet et définitif des ouvrages 5 mois avant leur sortie, de façon à arriver avec les livres finis pendant les réunions commerciales. Et puis là, depuis 6 mois, on a un petit peu modifié notre façon de procéder et donc nous imprimons en numérique des épreuves non corrigées ou des exemplaires promotionnels, quelques centaines d'exemplaires que nous distribuons aux équipes commerciales qui ensuite elles-mêmes les remettent aux libraires. Donc ce sont de vrais ouvrages qui, pour la collection électronique, n'ont pas toutes les finitions de fabrication, mais ce sont de vrais livres.
Et justement, par rapport à la diffusion, la distribution, qui est-ce qui s'occupe de vous, du coup, et puis, est-ce que c'est toujours la même personne? Comment ça fonctionne pour ça?
Alors, nous sommes chez Volumen depuis une douzaine d'années. Volumen qui a été racheté par Interforum à la fin de l'année 2015. Il y a eu des changements d'équipe, mais l'entité Volumen est quand même restée la même. Et c'est vrai qu'ils nous ont vraiment bien suivis dans l'évolution de la maison d'édition. Et d'autant plus que ce changement de cap vers la fiction a été assez rapidement remarqué et puis a connu un succès assez immédiat. Donc ils nous ont vraiment appuyé en fait sur ce développement de deuxième axe qui venait finalement compléter et redonner un peu de dynamisme à la ligne éditoriale qui auparavant était orientée documentaire et qui a un petit peu bâti l'évolution du documentaire qui a un peu subi Internet et du coup de passer à la fiction a été vraiment bénéfique.
Oui, il n'y a plus de documentaires là où il y a encore des publications qui vont se faire, qui vont être pour quel âge, comment, parce qu'on a beaucoup parlé de la fiction, mais il y a eu des très bonnes choses et comment ça va continuer par rapport aux documentaires?
Alors, il y a toujours des documentaires. Actuellement, ce sont des documentaires qui sont destinés à un lectorat âgé de 8 à 10 ans généralement. Donc toujours avec cette veine assez ludique, donc des livres-jeux éducatifs avec un petit retour à l'histoire d'ailleurs, avec notamment une collection qui s'appelle « Déjouer les pièges ». C'est une collection qui est assez transgénérationnelle puisque les adultes se prennent au jeu autant que les enfants pour découvrir les anachronismes qu'il y a sur des illustrations. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension de pédagogie avec l'amusement. Et en fait, ce qui nous a demandé beaucoup d'énergie, surtout l'année dernière, ça a été la création d'un secteur petite enfance que nous n'avions pas encore développé dans le catalogue et qui a été créé au second semestre 2016, donc pour les 3-5 ans. Donc des petits albums avec des héros bien identifiés. D'ailleurs, une série, nous sommes en train de signer un contrat d'adaptation audiovisuelle pour une animation. Donc voilà, ça c'est un des résultats d'ailleurs des rendez-vous avec des producteurs que nous faisons chaque année au Salon de Montreuil en fin d'année. Et puis nous avons aussi j'ai reçu depuis 2-3 ans énormément, enfin, beaucoup plus de propositions en fiction et des choses vraiment de qualité. Alors, c'est vrai que moi, mon rôle aussi, c'est de réussir à faire patienter avec beaucoup de diplomatie les auteurs qui me proposent des projets intéressants mais que je ne peux pas publier dans l'immédiat. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est lorsque l'auteur, qu'il soit débutant ou confirmé, me propose son projet avec une courte présentation. Ça, c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est vrai que ça peut paraître réducteur, mais ça permet quand même de cibler plus rapidement. Et vu qu'on est dans une optique, le titre qui est assez restreint, parce que 30 titres par an, lorsqu'on publie beaucoup de fiction et beaucoup de séries, eh bien, c'est une grille qui se remplit très très rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal de recevoir aussi une courte présentation qui permet de m'orienter en fait dans mes choix. Et puis, voilà, après, je n'ai pas forcément besoin de quelque chose de très développé. Et c'est surtout, j'ai besoin de voir si les premières pages sont vraiment bien construites. Enfin, c'est vrai qu'avec l'expérience, on apprend beaucoup plus rapidement en fait, à tester la qualité à la fois littéraire et aussi de l'intrigue. On arrive à avoir beaucoup plus rapidement la façon dont l'auteur va construire son récit. Et c'est un apprentissage qui se fait sur des années parce que je sais que j'étais bien embarrassée au début lorsque je suis arrivée chez Gulfstream pour procéder à la sélection. C'est tout, aussi tout un apprentissage de dire non parce que en fait, on est toujours embêté de refuser un projet à un auteur, mais c'est bien de le refuser de façon circonstanciée aussi. C'est ce que je m'efforce de faire.
Ça va, ils sont pas méchants après.
Non, généralement, ils le prennent quand même plutôt bien puisque vu que les refus sont argumentés, bah, du coup, ils en sortent régaillardis, je dirais. Et après, ils me proposent des nouvelles versions.
D'accord, pas besoin d'un monsieur Malocène pour en faire ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la suite?
Alors, pour la suite, toujours beaucoup de fiction et une envie aussi de proposer donc, un lecteur adolescent pour des 13-15, une collection, alors un peu à l'instar d'Électrogène, qui va proposer des one-shots. Parce que c'est vrai que pour ce lectorat, nous n'avons proposé que des séries jusqu'à présent. Et donc, en 2018, nous proposerons un one-shot. Alors, on va commencer par Karina Rosenfeld avec un one-shot fantastique pour les 13-15. Et puis, il y aura une nouvelle collection qui va naître aussi à la fin de l'année 2018, une collection de romans réalistes pour les 13-15 avec des one-shots également. Parce que voilà, il y a une envie aussi d'aller vers des thématiques de notre monde vraiment actuelles, parce que même dans la littérature imaginaire, ce sont des thématiques qui sont actuelles, qui sont les thématiques de notre monde. Et là, j'ai vraiment envie de me replonger dans notre monde concrètement. Donc, de façon vraiment à proposer à la fois de l'imaginaire, mais aussi du réalisme, du contemporain. Et c'est ce qui va être développé à compter de la fin de l'année 2018 et qui va se prolonger en 2019.
On a déjà été un peu, on devrait pas encore. Des titres ou des auteurs qu'on va retrouver dans cette collection.
Oui, alors pour l'instant, la collection de. Bah, les collections d'ailleurs de romans réalistes et de romans fantastiques n'ont pas encore de nom, mais pour la collection de romans réalistes, nous allons accueillir pour la première fois Christine Ferré-Fleury pour donc, un roman pour les 13-15 sur le thème de l'homosexualité. Un titre de Charlotte Bosquet aussi qui. Se dérouler pendant des manifestations qui a pour. Non, je crois qu'on avait un petit proviseur, donc là je ne me souviens plus. Mais voilà, qui est très actuel et qui a une dimension assez politique et militante, une nouvelle fois. Pour le roman fantastique de Karine Arvet sur une thématique plutôt qui semble le don d'ubiquité et de vision à distance. D'ailleurs, moi je découvre. Plein de choses, et c'est ça que j'adore lorsque les auteurs me proposent des projets, c'est que ben, ça me permet d'explorer en fait, des sujets que je n'aurais vraiment pas imaginé, notamment cette question de la vision à distance. Et en creusant un peu, j'ai constaté qu'il y avait notamment des espions qui avaient été engagés à la CIA parce qu'ils avaient cette faculté de voir à distance à travers les murs. Enfin, c'est quelque chose d'assez dingue. Voilà, donc Karine apporte une dimension fantastique. Mais, et puis en 2019, toujours. Les ados et les grands ados, là on va s'orienter vers aussi du contemporain, on va dire contemporain 20e, mais qui se déroulera entre les années 80. retour en arrière, mais ça va dire du futur antérieur, puisque j'ai parlé aussi de publications qui vont se faire de façon plus immédiate, donc au second semestre 2017. Un ouvrage de Fabien Fernandez, qu'on va accueillir aussi pour la première fois dans le catalogue, qui se passe à Détroit et qui s'appelle Détroit, qui est vraiment un roman dans la collection Étrangère, qui est vraiment un roman coup de poing et qui a en plus une véritable originalité dans sa narration, puisque la ville de Détroit elle-même est un personnage, et c'est un personnage qui parle, et il y a une dimension très musicale dans ce roman, puisque bah, forcément Détroit, c'est le berceau de la montagne, c'est le berceau de l'industrie aussi automobile, donc voilà, il y a vraiment une fresque de cette ville qui se prête énormément au rêve et à l'exploration, urbaine aussi. Voilà, nous avons aussi un titre de Charlotte Bousquet, qui est vraiment, comme vous voyez, un pilier de la maison, avec un ouvrage amérindien, étrogène, qui s'appelle, les titres sont toujours très poétiques, Celle qui venait des plaines. Donc voilà, sur eh bien, la culturation forcée des Amérindiens et surtout des Amérindiennes qui ont été obligées, qui ont été internées en fait dans des pensionnats catholiques pour les nettoyer de leurs vices et de leur culture amérindienne. Et voilà, c'est un portrait assez terrible en fait de ce qui s'est passé aux États-Unis voilà, au 19e, début 20e siècle. Donc voilà, c'est très très éclectique, mais c'est vraiment l'ADN de la collection électrogène.
D'accord. Et est-ce qu'il y aurait un livre dont on avait parlé qui serait un coup de cœur ou quelque chose, je ne sais pas, enfin, on peut choisir un coup de cœur donc, quand on publie autant de titres?
Bah, c'est toujours une question très délicate, puisque par essence, ce sont des coups de cœur, puisque rien ne m'oblige évidemment à publier ces ouvrages, et tous ont vraiment une particularité. Et puis voilà quelque chose qui me fait dire que viscéralement je ne peux pas passer à côté de ces textes-là. Donc en fait, moi, il m'est toujours impossible de citer un texte. Moi, je suis toujours très contente en fait de pouvoir découvrir les envies, la créativité en fait d'auteurs, et notamment ceux qu'on n'a pas encore accueillis dans le catalogue. Et c'est toujours un grand plaisir en fait de pouvoir être là à un moment donné pour leur donner en fait une visibilité, parce que voilà, donc je pense notamment à celui de Fabien dont j'ai parlé, parce que c'est vraiment, je trouve, une chance en fait d'avoir la possibilité de publier des ouvrages qui sortent de l'ordinaire, par mon sens.
Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt ce qu'on voit sur les rayons de Fablestream. Du coup, est-ce que peut-être vous avez des questions ou des choses que vous avez envie de demander plus précisément? Se limiter à 30 ouvrages par an?
Alors là, c'est basiquement une question de budget. Voilà, c'est une question de budget, puisque nous accordons quand même beaucoup d'importance, évidemment, aux auteurs. Donc, nous essayons de les traiter le mieux possible, donc de proposer la rémunération la plus juste. Donc ça, c'est la partie auteur. Et puis, il y a aussi toute cette partie fabrication, parce que nous sommes très attachés à l'objet libre. Je pense que vous pouvez le voir hein, sur les différentes propositions éditoriales. Il y a un travail sur l'image, sur les couvertures, sur la fabrication de l'ouvrage en lui-même. On aime beaucoup aussi faire travailler des illustrateurs et pas forcément que des bandes d'images hein, pour les couvertures. Donc c'est à la fois un travail qui est long, mais qui voilà, nécessite des finances qui font qu'on voilà, ne peut pas publier plus de 30 titres par an. Et puis pour qu'un ouvrage vive correctement, nous essayons aussi de faire des tirages minimums qui leur donnent une visibilité, donc au moins du 4000 exemplaires au titre. Donc c'est ce qui fait que nous ne publions que 30 titres par an.
Je rebondis du coup sur les illustrateurs, comment vous faites pour les choisir, comment ça fonctionne? Et après, est-ce que les auteurs et les illustrateurs sont en contact sur les choix ou pas du tout? Parce qu'il y a des maisons, il n'y a pas de contact, il y a des maisons, il y en a. Comment ça marche chez Gulfstream?
On a vraiment envie de privilégier la collaboration entre auteurs et illustrateurs. Là, par exemple, pour les autres passeurs, le tome 4, on a procédé de façon un peu différente par rapport aux trois premiers tomes. Nous avons fait appel à une illustratrice qui est installée en Colombie, qui s'appelle recherches sur les différents sites qui s'appellent Ultrabook, Vigilance, etc. Et j'avais vraiment une orientation très précise, je savais ce que je voulais, et donc je l'ai contacté. Le fait qu'elle elle ne parle pas le français n'a pas été un frein dans sa vie. Généralement, elle travaille quand même plutôt aussi avec des illustrateurs français, mais là je trouvais que son style correspondait vraiment parfaitement à ce que nous souhaitions réaliser. Et donc, avant de la contacter, je l'ai proposé à Cindy, voilà, je lui ai montré son book et je voulais avoir l'avis de l'auteur avant de contacter l'illustrateur. Et donc, Cindy était plutôt partante. Et donc, ensuite, je les ai mis en contact toutes les deux. Elles ont échangé et la couverture a été élaborée dans un travail vraiment collaboratif. Et donc, on est vraiment dans ce partage de l'information.
Et après, sur des photos comme sur les LR, par exemple, ou sur 101, c'est pareil, vous prenez des photographes, travaillez-vous à partir d'images que vous retravaillez, enfin, comment ça marche c'est la maquette qui fait ça, est-ce que c'est encore une autre corde à votre arc?
Alors, Electrogène a justement cette particularité de proposer que des couvertures qui sont issues d'une banque d'images en particulier. C'est une banque d'images qui s'appelle Archangel et qui propose des prises de vue qui ont une dimension très artistique, très onirique et qui correspond parfaitement à la collection. Et donc nous travaillons étroitement avec les membres de cette banque d'images, de cette structure. Si bien qu'ils peuvent même éventuellement prendre ce qu'on appelle un brief, par exemple lorsqu'on a des idées en tête de nouveaux projets. Je ne leur en fais pas et eux peuvent me proposer éventuellement un shooting photo qu'ils vont réaliser spécialement pour la collection. Donc là, c'est vraiment la particularité d'Electrogène qui est vraiment particulière en tout. Sinon, pour toutes les autres collections ou séries, nous ne faisons travailler que des illustrateurs. Donc ce sont des créations originales qui sont vraiment commandées pour l'ouvrage en particulier.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Le numérique n'est pas très développé, on s'en tient au strict minimum, on va dire, c'est-à-dire que tous les ouvrages de fiction sont proposés en EPUB au moment de la sortie du roman en version papier. Il y a encore 2 ans, il y avait un décalage en fait, entre la sortie d'EPUB et du livre imprimé. Je crois qu'on attendait entre 3 et 6 mois et finalement, maintenant nous procédons à la publication simultanée avec l'accord de l'auteur bien sûr et puis de toute façon il y a eu un nouveau contrat d'édition qui a été élaboré par le syndicat national de l'édition à la fin de l'année 2015 et qui fait entrer maintenant directement la partie contractuelle numérique dans la partie du contrat d'édition et généralement les auteurs sont d'accord pour que l'on publie aussi l'EPUB directement.
Possible d'avoir, quand on achète la version papier, un code pour avoir la version numérique dans le prix, en fait.
Un peu comme ce qui se passe pour les vinyles, par exemple. Voilà. C'est une question que l'on s'est posée, mais pour l'instant, on n'a pas spécialement s'orienter vers ça. C'est vrai qu'on dissocie vraiment le livre imprimé du livre numérique pour l'instant. Même si, en effet, cette extension, cette proposition est intéressante. Mais c'est pas l'ordre du jour. Par contre, d'éventuels enrichissements pour les EPUB nous font vraiment très envie. Et je pense notamment, là je reparlais à nouveau du roman Détroit, c'est vrai que c'est typiquement le genre d'ouvrage où lorsque lorsqu'on proposera l'EPUB, je pense qu'on aura très envie aussi de proposer un enrichissement musical, sonore. Tous les ouvrages ne s'y prêtent pas forcément, mais voilà, certains pourraient en effet être un excellent support pour des enrichissements, donc en EPUB 3 notamment.
D'autres choses hein? Non, c'est bon. Alors, moi, pour terminer, puis parce que la remise du prix va suivre rapidement, on a parlé beaucoup de la maison, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous, éditrice là-dedans, donc, est-ce que, parce que vous avez commencé jeune et vous êtes depuis longtemps,
c'est une question qui pourrait peut-être être un peu piège. Mais non, non, mais j'ai raison. Non, mais en fait, c'est vrai que moi, je me suis construite en tant qu'éditrice avec cette maison, donc je suis vraiment foncièrement liée à cette maison d'édition. Et puis, j'ai la chance qu'on me laisse les mains quand même vraiment très, très libres de publier, de développer le catalogue. Alors, évidemment, de façon construite et argumentée, mais finalement, toutes les propositions que j'ai pu faire en développement pour la maison d'édition ont été accordées immédiatement parce que, en fait, j'ai quand même une visibilité de ce que j'ai envie de proposer pour la maison, même dans les 3-4 ans à venir, et je suis obligée de m'inscrire dans cette projection à long terme, puisqu'encore une fois, nous ne publions pas énormément de nouveautés par an, donc je sais que j'ai envie de faire encore beaucoup d'autres choses, notamment, on parlait tout à l'heure de romans graphiques, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de développer ce pan, parce que j'ai vraiment un très fort à l'illustrer et à la création par des illustrateurs, parce qu'encore une fois, il y a vraiment une richesse incroyable. Pourquoi pas des romans graphiques qui exploiteraient notamment le roman gothique du 19e, mais sous forme d'adaptation. Enfin, là, il y a plein d'idées aussi de l'adaptation de nouvelles, alors plutôt anglo-saxonnes, mais de nouvelles des années 20-30, je pense notamment à des textes d'une auteure qui s'appelle Dorothy Parker, donc, que j'aime énormément. Et je verrais ça très très bien en roman graphique, mais là c'est une réflexion qui doit se bâtir sur 2-3 ans, parce qu'encore une fois on parlait de budget tout à l'heure, le budget en bande dessinée est encore plus important que le budget en fiction, c'est un travail de longue haleine pour tout le monde, mais c'est je pense quelque chose qui aurait vraiment sa place dans le catalogue, avec cette dimension à la fois patrimoniale, de transmission, et puis aussi de transposition, parce que je crois beaucoup à cette dimension de transposition. Il y a notamment une collection chez Gallimard qui s'appelle Bayou en BD, qui propose des ouvrages très intéressants. Il y avait notamment Gatsby Magnifique qui avait été adapté en bande dessinée, mais bon, le Shanghai du XXe siècle, et je trouvais ça vraiment excellent comme idée. Donc voilà, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais c'est d'abord le temps. Et puis, est-ce que tu peux l'argent?
Je vais vous demander un petit peu comment vous faisiez pour faire tout ça, parce que c'est incroyable, en fait. Mais vous avez une énergie folle, en fait.
Mais en fait, l'énergie nourrit l'énergie. Je veux dire que c'est quelque chose qui est en fait un peu un cercle vertueux, hein, finalement. Plus on a d'idées, plus on sent qu'on est poussé et soutenu, plus voilà, ça favorise en fait cette création. Et donc, c'est vrai que la création vient d'abord des auteurs, des illustrateurs,